Chapitre 5. Sébastien, afin de conclure son mariage, avait décidé de partir pour Nézignan-l'Évêque. Le malheur, c'est que Madame Veuve Lampéric le privait d'argent, dans l'espoir qu'il délaisserait à ses pauvres ressources la jeune fille dont il célébrait follement la beauté dans ses lettres. Pour couvrir les frais de son voyage, il vendit quelques objets de son mobilier et même des reliques de famille, Dieu l'art que Madame Lampéric avait remis à son fils en tremblant. Ce soir de janvier, il sortait de chez une brocanteuse, au bras de Mathilde, lorsqu'en se rendant à la Fourmi, ils heurtèrent sur le trottoir un couple timide qui hésitait à pousser la porte du restaurant. « Ne bousculez pas !» maugréa le monsieur. Sébastien, intrigué par le timbre de cette voix, s'arrêta net. Les deux hommes se dévisagèrent et tous les deux, en même temps, s'exclamèrent de surprise. « Oh, t'es, c'est toi ?»« Oui, c'est moi. Et qu'est-ce que tu fais là ?»«
J'allais dîner avec madame. »«
Nous aussi. Et entrez donc, que nous ferons mieux connaissance à table. » Quoique la dame de son ami eût manifesté une pudeur devant Mathilde, qui n'était pas une épouse légitime, Sébastien les introduisit dans le restaurant avec civilité. À gauche, au fond, il les fit asseoir à sa table d'habitude, les deux femmes sur la banquette. Le couple que la Providence mettait sur les pas de Sébastien appartenait directement à sa patrie, Nézignan-l'Évêque, Léon et Berthe Baudois, venus à Paris aventurer leurs biens dans les affaires. Léon, beau, solidement musclé, de moyenne taille, la barbe déjà blanche, quoiqu'il n'eût pas atteint la cinquantaine, bavardait gaiement avec sa pétulance d'ancien commis voyageur. Il chercha, vite familier, à séduire Mathilde, qui était assise en face de lui. Ses prévenances éveillèrent chez son épouse une jalousie qui, d'ailleurs, ne s'endormait guère. Berthe, à mesure que l'âge l'enlaidissait, redoutait pour la sécurité de son ménage et pour la paix de son cœur. Sèche, maigre, elle savait, avec sa couleur de châtaigne et sa grande bouche de poisson, que ce n'était pas l'attrait de sa personne, mais l'appât de son argent, qui forçait son mari à la fidélité. La compagne de Sébastien resplendissait de fraîcheur et de franchise. Elle n'avait qu'à parler et à rire, les dents aiguës, la gorge brillante, pour tourner la tête aux hommes. « Alors, Sébastien, tu vas au pays ?» demanda Léon. « Il le faut. Ma mère ne se déciderait jamais. Naturellement, j'amène Mathilde. »« Ah bah, tu as du toupet !» Ça se fait ainsi dans le Nord, en Flandre. « Quel scandale ce sera en Languedoc !»« Et pardon, madame, » ajouta Léon en s'adressant à Mathilde. « Je ne veux pas vous offenser, mais je crois que la mère de Sébastien vous prendra pour une cocotte. » Alors, elle ne voudra rien entendre. C'est vrai, confirma Berthe. Mathilde riait bruyamment, les poings aux hanches. Une cocotte, moi, moi qui suis encore demoiselle? Vous, demoiselle, pas possible, s'extasia Léon. Ma foi, tant pis, conclut Sébastien, je n'aurais jamais entrepris seul le voyage. Je suis d'ailleurs convaincu que ma mère, en voyant Mathilde, cédera sur tous les points. N'ai-je pas raison, ma chatte ?
Certes, répondit Mathilde qui baissait les yeux. Je t'aime bien aussi.
Bonne chance alors. Léon, pour enchérir sur la générosité de Sébastien qui avait offert des raisins, si précieux en janvier, fit servir du Bourgogne. Pendant que vous rigolerez là-bas, déclara-t-il, nous travaillerons ici, Berthe et moi.
À quel travail ?
Je ne suis pas fixé, mon cher. Une boutique de marchands de comestibles et de vins du Languedoc que j'installerai peut-être avec un luxe à épater Paris.
Ah, si tu voulais !
Une idée me vient.
Laquelle ?
On s'associerait. Je te parie qu'avec l'aide de nos femmes, nous conquérions vite notre place au soleil.
Je ne dis pas non, bourdonna Sébastien, une main sur son verre.
La cuisine épicée, les vins abondants échauffaient leur tête. Une fois partis dans le rêve, ils entrevirent une fortune qui les attendait, aussi étincelante qu'à l'aurore, un village de pêcheurs au bord de leur mer latine.
« Il me faudra démissionner au ministère, » soupira Sébastien.
« Parbleu, qu'est-ce que tu gagnes ? Rien pour un homme de ta condition. Et de quel capital pourrais-tu disposer ?
De 200 000 francs à peu près, répondit Sébastien, qui, souhaitant d'éblouir Mathilde, exagérait du double.
Moi, fit Léon avec une audace égale, je possède 100 000 francs.
Mais, mon cher, en apportant 50 000 francs chacun, nous en avons de reste pour amorcer le commerce.
On trinqua au succès de l'entreprise que tous les quatre considéraient comme résolu.
Berthe elle-même, charmée par l'optimisme de son époux, caressa la main de Mathilde sur la table, en grande sœur qui la protégerait plus tard. Dans un brouhaha de félicitations, en sortant, les deux hommes se trompèrent de femme. Sébastien présentait à Berthe son mantelet de velours, Léon agrafait au cou de Mathilde son manteau de drap bleu. Dehors, les femmes marchèrent seules, en chuchotant. Puis les deux hommes, bras à bras. Mais l'un et l'autre dirigeaient le regard sur Mathilde, dont la chevelure blonde brillait aux lueurs intermittentes des cafés. Le boulevard de Clichy éclatait de joie, avec des rires et des chansons, dont la nuit froide répandait au loin le bruit. Sur le trottoir plus large de la rue Lepic, tous les quatre se confondirent en un seul groupe par une émotion croissante d'amitié. Ce fut avec des embrassades que les Baudois, devant la maison de M. Jaume, quittèrent Mathilde et Sébastien. Ceux-ci, le lendemain, consacrèrent toute la journée aux préparatifs de leur départ. Le soir, ils s'embarquèrent de la gare de Lyon par le rapide comme des riches. Sébastien paya un oreiller à sa petite femme, lui mit une couverture sur les genoux, avec tant de zèle que les autres voyageurs les prirent aussitôt pour des jeunes mariés. Mathilde, habituée à coucher naguère sur un grabat, dans la promiscuité de sa famille, dormit à merveille, la gorge découverte, la taille libre des cordons de sa jupe. À Tarascon, les cahots de son wagon qu'on attelait au train de Nîmes la réveillèrent. Quel ravissement pour ses yeux lorsqu'elle vit le Rhône torrentueux et glauque, accourant des campagnes rieuses du Comtat vers les plaines d'Arles, hérissées de joncs et de roseaux, dans le soleil blanc de l'aube qui, sur les oliviers, sur les pierres blanches du terroir de Beaucaire, épanchait sa poussière d'or. Elle se planta debout contre la glace, ainsi qu'un enfant, pour admirer les vignes, toujours les vignes, déjà prêtes à la fécondation, et les masses, les baraquettes, les grands jours rutilants de blancheur, sans arbres, sur les premiers contreforts des Cévennes noires. Dans les gares, ce peuple du Languedoc au patois musical l'amusait, par son flegme aéré sur les quais, à chercher ses places dans le train, surtout dans les compartiments les plus encombrés. Il lui semblait traverser un pays bizarre, loin de la France, un pays de fête, où elle-même, par son opulence et sa carnation de blonde, provoquait la curiosité des passants et des employés. À Montpellier, il leur fallut descendre pour aller, au-delà d'un faubourg, prendre un train d'intérêt local. Peu de monde circulait dans les rues. Pourtant, beaucoup de tapages s'élevaient vers le soleil. Mathilde, comme à Paris, dans la foule, devait parler haut à Sébastien pour se faire entendre. Ils déjeunèrent d'un chocolat au café riche sur la place de la Comédie où de jolies femmes, des officiers mêlés aux étudiants et à des bourgeois se promenaient les mains derrière le dos, béatement. « On ne travaille donc pas, Montpellier ?» demanda Mathilde.
« De temps en temps, répondit Sébastien, par équipe. » Pour se dégourdir les jambes, ils gagnèrent à pied la gare de l'intérêt local, une gare en planche, provisoire depuis 40 ans. Le petit train, aux voitures ouvertes d'un bout à l'autre par un vaste passage, à la façon des roulottes, gravissait les coteaux avec peine, les dégringolait en trombe. Le paysage variait plus fréquemment d'aspect et de couleur. Tantôt, à Bouzigues, l'étang bleu que Mathilde en extase avait pris pour la mer, tantôt les garrigues sanglantes, embaumées de thym et de farigoules. Dans chaque gare, le chef faisait la causette avec le mécanicien, avec les voyageurs. Et l'on repartait sans hâte en échangeant des vœux de bonne santé. À Montagnac, au pied d'une âpre colline dont le vignoble n'avait pu entamer le roc, les deux amoureux s'arrêtèrent. Sébastien, afin de ne pas scandaliser sa mère, avait résolu de résider dans cette grosse bourgade à 1 heure de marche de Nézignan-l'Évêque. Leur malle sur un chariot, ils montèrent à l'extrémité d'une promenade sur une placette à l'auberge qui s'intitulait « Hôtel de la paix ». Après qu'ils eurent retenu leur chambre, une seule à deux lits,
après qu'ils eurent déjeuné d'un repas presque frugal, d'olives, de radis, d'oignons si doux de Lézignan la Sèbe, Sébastien voulut dardard partir pour sa ville natale. « Je suis fatigué, dit-il. N'importe, il ne faut pas lambiner. » « Au moins, reviens ce soir, le supplia Mathilde. Que deviendrai-je ici sans toi ?»« Ne flâne pas trop dans les rues. Les gens très hardis du Languedoc te taquineraient vite. » Mathilde l'accompagna tendrement, nouée à son bras, jusqu'au-delà des villages. Ils s'embrassèrent une dernière fois, avec l'angoisse des résistances que Sébastien, dans l'intérêt de son amour, allait affronter. Il se détourna, un peu plus loin, sous les platanes noircies par l'hiver, pour lui envoyer un baiser. Elle répondit avec effusion et si fière de son dévouement que, malgré sa taille d'enfant, il ne lui paraissait presque plus laid ni ridicule dans son pardessus de Milord, sous son gibus à reflets. Sébastien pressa le pas. À mesure qu'il avançait à travers cette campagne, dont il connaissait les moindres plis, une inquiétude augmentait dans son âme. Il pénétra sur le viaduc qui, de ses arceaux trapus, franchit la plaine, avec ses tas de cailloux toujours disposés à distances égales, au bord des fossés. De la crête du pont, qui enjambe l'Hérault paisible, il aperçut au loin, dans sa ceinture de verger, le vieux Nézignan l'évêque, son clocher pointu au milieu des maisons noiraudes. Un coup de tristesse le frappa au cœur. N'était-il pas un insensé d'aller chez lui apporter le sentiment de la révolte pour la gloire d'une femme dont il n'avait encore apprécié que les apparences? N'eût-il pas vécu plus heureux sous son toit, auprès d'une épouse de son pays, respectée de ses voisins et de ses proches, et sur la conscience de laquelle il aurait pu toujours se reposer? Mais il rayonnait de jeunesse et de vaillance. Il croyait, à son âge, que l'homme, par la simple vertu de sa bonté, crée sur terre du bonheur. Il avait pris un chemin bas, peu fréquenté, où le moindre bruit s'étouffe sous des roseaux. Pressant le pas davantage, avec une sorte de colère, il s'efforça de mépriser les femmes de sa race, si mal fagotées et si habiles aux mensonges. Hors du chemin, il retrouva, dans un faubourg, la grande route. Deux charretiers, s'amusant à claquer du fouet, divertirent un moment sa pensée, ainsi que les murs séculaires des jardins, les maisons aux trois quarts rapiécées, qui lui rendaient, à la lumière de son ciel, le cadre de ses premiers rêves. Ce qui l'étonna dans la ville, c'est que personne ne le reconnut. Peut-être n'osait-on pas interpeller un Parisien richement habillé? Sa maison, au centre d'un quartier de travailleurs et de petits propriétaires, ennoblissait, par sa figure bourgeoise, le plan des sauvages, souillé d'ordures de ménage, de crottes et de purins. Il entra dans la cuisine à la porte vitrée. Personne. L'escalier, à droite, grimpait à la salle à manger salon au premier, puis aux chambres au deuxième. En montant, pour ne pas chanceler, il s'appuyait au mur, levait le front de temps à autre, comme jadis, lorsqu'en revenant de l'école, il entendait son père, indulgent et modeste, l'appeler à table. Au premier, la porte rougeâtre était entr'ouverte. Il la poussa timidement. Il vit sa mère, assise près de la fenêtre et qui tricotait un bas, tout de noir vêtu, son bonnet de cévenol noué sur le crâne, des lunettes sur le nez, un gros nez rondelé, entre des joues pâles, sous la lueur ivoirine du front bombé. Elle soupirait beaucoup pendant son ouvrage. C'est qu'elle songeait à Sébastien, perdu là-bas dans l'enfer de Paris. Tout son cœur était occupé par ce souci, de sorte qu'elle ne participait point au monde où elle vivait, à sa vieille maison qu'elle avait façonnée de ses doigts, selon ses principes d'ordre et d'économie. À cette heure, où les gens du voisinage travaillaient dans leurs vignes, le silence régnait partout. Sébastien s'avança. Madame Lampéric, à cette ombre soudaine, tressaillit, et se renversant sur le haut dossier de la chaise, elle reconnut son fils. Éperdue de joie, elle poussa un cri. D'un élan, il se jeta entre ses bras. Tandis qu'elle pleurait, il s'efforça de rire. « Tu ne m'attendais pas ?»« Non, pourquoi ne t'es-tu pas annoncé ? Mais il y a donc un train le soir ?»« Je ne sais. » « Ah, tu m'expliqueras. Veux-tu quelque chose? Une tisane? Tu dois avoir faim. » « Non, ma mère, remets-toi sur ta chaise. » « Tu es couvert de poussière. D'où viens-tu? Oh, mon fils !» Elle l'embrassa de nouveau. Il la serrait bien fort en se défendant de pleurer lui-même.
« Attends, tu dois être fatigué. Je vais te préparer de la tisane. »«
Comme tu voudras. » Pendant qu'elle mettait du tilleul à bouillir, ensuite elle apportait à Sébastien, bien chaud, bien sucré, elle l'interrogeait sur les conditions de son voyage, de son séjour en Languedoc. Elle n'osait parler de cette étrangère à laquelle tous deux ne cessaient de penser. Mais rien qu'à observer son indifférence devant ce plan des sauvages où il avait tant joué autrefois lorsqu'il était petit, elle pressentit en lui des desseins redoutables. Alors, en son cœur de mère, elle puisa de la volonté. Elle s'assit devant lui, posa les mains sur ses genoux et brutalement lui demanda « Pourquoi es-tu venu ?» Sous le défi, Sébastien leva la tête en parisien présomptueux et répondit « Je suis venu pour mon mariage. »
« Avec cette femme de Paris ?»«
Oui. »«
Oh, Seigneur, tu ne nous l'as pas amenée, au moins ?»«
Si, presque. Elle s'est arrêtée à Montagnac. »«
Oh, que de misère tu nous prépares !»«
Tu ne comprends pas. Plus tard, tu désireras vivre auprès de nous. »«
Moi, jamais. »«
C'est une fille du peuple, voilà tout. Nous aussi, nous sortons du peuple. »
« Mais tout le monde nous connaît.
Va seulement à Montpellier, personne ne te connaîtra. Enfin, tant pis, je ne céderai pas. Tout de même, si tu veux... »
Maladroit, son bol entre les mains, il effleurait sa mère d'une caresse. Elle le débarrassa du bol qu'elle porta vivement sur la table pour se rasseoir aussitôt. Elle dit, les dents serrées,
« Vous vivez ensemble ?»
« Non, j'ai une chambre voisine de la sienne et je sais son innocence. »«
C'est difficile à croire dans Paris. Ah, ce Paris !»
Elle se tut, un pas indolent montait l'escalier.
« Tais !» s'écria-t-elle, « voici ton oncle Alcide. Je parie que lui-même, qui n'a jamais brillé par la raison, tu le sais, ne t'approuvera pas. »«
Mon oncle, mon oncle !»
Sébastien s'élançait pour ouvrir.
L'oncle Alcide, qui poussait la porte, fit un bond de frayeur en arrière. C'était un luron de 60 ans, haut sur jambes, noir, des pommettes rubicondes, ainsi que la truffe de son nez, dans un visage maigre que brûlaient des yeux de braise et qu'encadrait une barbe drue. Il professait un tel mépris des femmes que jamais il n'avait consenti à en épouser une. Chaque mois, il versait à sa sœur Adèle, sur un capital d'une 50 000 francs, sa pension de loyer et de nourriture. Égoïste, sournois dans ses noces, il ne manifestait jamais sa joie avec bruit. Le rire lui restait en dedans, un rire malicieux dont l'écho ridait ses pommettes, vibrait dans ses yeux creux. La vie l'amusait, la vie des autres, leurs comédies de famille et leurs drames, au milieu desquels, par dilettantisme de vieux célibataire, il apportait quelquefois de la pitié. Là, ayant embrassé son neveu qu'il affectionnait, ce soir, après leur très longue séparation, il l'interrogea.
« Que viens-tu faire ici sans crier gare ?»«
Alcide, imagine-toi, s'écria Mère Adèle, qu'il a conduit cette femme jusque chez nous. »«
Oh !»«
Pas du tout, mon oncle, elle est à Montagnac. »
« Bon, tu as eu de la pudeur. Que diable t'es-tu flanqué dans la tête ?»«
Ça n'en sortira plus, mon oncle, si je te ressemble. »«
Mon enfant est fou. Paris l'a perverti. » »«
Ma mère, tu juges les gens et les choses à travers l'esprit étroit de la province avec des préjugés de ton âge. Permets que j'amène Mathilde auprès de toi. »«
Jamais, je te l'ai dit. » »«
Que mon oncle vienne donc avec moi la prendre. »
« Ton oncle ? Non !»«
Pardon, se récria le vieux paillard, je ne suis ni un sot ni un malhonnête. Les femmes, ça me connaît. Sébastien a raison. Pourquoi n'irai-je pas à Montagnac étudier un peu cette demoiselle ?»
L'oncle Alcide promenait sa langue avec gourmandise sur ses lèvres charnues, dans les poils revêches de sa barbe. L'idée de voir une femme de Paris lui rajeunissait le sang. Et, après Sébastien, il sermonna si obstinément sa sœur que Mère Adèle, excédée, se résigna aux démarches d'Alcide, dont elle eut à l'avance annoncé le résultat. Elle gémit, marcha dans la salle avec colère, appelant à l'aide son pauvre mari contre les extravagances de son fils et de son frère. Néanmoins, il tardait à Sébastien d'aller rejoindre Mathilde. Sa mère voulut, sur le palier, l'embrasser une fois de plus. Elle n'en eut pas la force. C'est lui qui l'attira sur son cœur en proférant des mots de consolation. « C'est dans ton intérêt, ma mère, que j'ai du courage contre toi. »« Que Dieu t'entende !» Elle tendait encore ses mains ouvertes que déjà Sébastien, après avoir salué son oncle, atteignait en bas la porte de la cuisine. Avec quelle félicité il retrouva Mathilde au village, jouant aux cartes sur la terrasse du café en compagnie de l'aubergiste. Mathilde n'avait jamais douté que Sébastien communiquerait chez lui son feu d'amour. À cause de leur fatigue, ils se couchèrent de bonne heure, chacun dans son lit, bien sage, en se tournant le dos. Le lendemain, ils sortaient à peine de déjeuner que l'oncle Alcide apparut devant eux sur le pas de l'auberge. Il s'inclinait, cérémonieux, sa canne de rentier à la main. Il observa gravement la femme blonde et souriante, autour de qui le luxe de la toilette formait une auréole. Il lui tendit sa main libre. Mathilde, avec allégresse, répondit à sa prévenance. « Au café, proposa-t-il, on causerait mieux. » Sur la terrasse du café, que décoraient deux lauriers roses en leur baquet de bois, on s'installa, non sans provoquer la curiosité des paysans, qui, sans boire, s'attablèrent çà et là. Alcide, le premier, rompit le silence. « Alors, mademoiselle, vous n'avez pas craint de descendre dans notre midi, qui diffère tant de votre Flandre ?»« Non, monsieur, Sébastien désire que je l'accompagne partout. » »« Il a bien fait. » Ainsi, on appréciera votre personne, vos idées. Moi, je ne suis pas mariée, mais enfin, j'admets tous les principes d'existence. Ça vous plaît de vous marier, mes amis? Tant mieux, agréez mes vœux les plus sincères. Merci, mon oncle. Alors, nous partons pour Nézignan-l'Évêque. Parbleu, s'écria Mathilde, attendez-moi une minute, le temps de mettre mon chapeau. Apporte-moi ma canne. Mathilde courait vers l'auberge, toute proche. À la voir sautiller, si légère et dodue, l'oncle ressentit des frissons de désir. Dès qu'elle eut disparu, il tapa son neveu sur la cuisse et dit « Je te félicite, neveu, si elle a autant de raison que de gentillesse, tu as découvert un trésor. » « Je le savais bien. » « Oui, mais il y a ta mère. » Tandis que Sébastien riait, tassé sur la banquette, Mathilde reparut, souveraine en son manteau bleu qui flottait, souriant de ses yeux bleus sous l'aile dorée d'un chapeau de feutre. On partit, tous bien d'accord, par la route blanche. Lorsque du pont de l'Hérault, Mathilde aperçut au loin, dans sa ceinture de jardin, parmi les platanes noircies de l'hiver, la ville endormie autour du clocher pointu, elle se souvint à l'improvise de sa patrie, de sa maison, avec tristesse. Pour se distraire de la pensée de Madame Lampéric, dont l'honnêteté rigide lui inspirait de l'appréhension, elle interrogea les deux hommes sur la culture des vignes. Puis, elle osa se renseigner sur le caractère des habitants et s'ils l'accueilleraient avec sympathie. L'oncle, plus empressé que Sébastien, la rassura. Les Lampéric jouissaient dans Nézignan-l'Évêque d'une considération hors ligne. On ne discuterait même pas Mathilde puisqu'elle descendait chez eux. Et par sa beauté, elle éblouirait le monde. À cette heure d'après-midi, les tonneliers, les employés, avaient réintégré leur chais ou leur magasin. Les boutiquiers, au fond de leur boutique, brossaient leurs marchandises. Ça et là, quelques chiens erraient, des vieillards allaient à l'église dire leurs prières. Dans la rue des Sauvages, Sébastien murmura « C'est ici !» Mathilde se serra dans son manteau et, non sans inquiétude, regarda ces maisons sournoises qui, de leurs fenêtres entrebâillées, examinaient sans doute les passants. « Nous voici rendus, mademoiselle. Montez !» L'oncle ouvrait la porte de la cuisine, puis celle de l'escalier. Là-haut, Madame Lampéric avait entendu la rumeur de leurs pas indécis. Elle s'avança vers la porte, mais des coups violents battaient dans sa poitrine. Elle ne put franchir le seuil. Déjà, Sébastien lui présentait Mathilde, qui, rouge de honte, s'inclinait humblement. Madame Lampéric demeura troublée par la grâce de la jeune fille, par la vigueur de son corps dégourdi. Cependant, elle saisit la main qui lui était tendue, offrit un fauteuil semblable à celui sur lequel, auprès de la fenêtre, elle s'asseyait de coutume.
« J'ai l'avantage, madame, de vous saluer, » disait Mathilde, à qui Sébastien avait appris la leçon. « Je désire apporter le bonheur ici. »«
Je sais. Sébastien a exigé que je l'accompagne. »
« Il n'a pas eu raison. »«
Pourquoi, ma mère ?»«
Parce que... »
« À vous, ma sœur, répliqua l'oncle, que deux jeunes gens, épris l'un de l'autre, sont excusables de n'avoir pas attendu davantage. »«
Tais-toi, paillasse !»
L'oncle se tint quoi, épiant, pour se consoler de son humiliation, la joue de Mathilde qui reluisait, au reflet de la rue, comme une glace. Celle-ci affectait tant de modestie que mère Adèle finit par s'attendrir.
« Le vin est tiré, il faut le boire, » dit-elle. « Maintenant que vous voilà dans ma maison, je dois me résoudre. »«
Autrement, ma mère, ce serait un scandale. »«
Alors, tu veux te marier ? Mon Dieu, je déclare que tu as eu du goût. Il n'y a pas dans le pays d'enfants si finement tournés que ta compagne. D'où sont au juste vos parents, mademoiselle ?
Dans un où ils gagnent leur maigre vie dans la mine. »
Hélas, ce n'est pas mon argent qui aurait attiré Sébastien.
Bon, vous avez l'idée d'amour enfoncée dans la tête. Que faire ?
Marie-les, gronda l'oncle.
Tais-toi, tu te moques de tout, toi, et de tout le monde.
Enfin, mademoiselle, je vous crois honnête, non seulement dans vos actes, mais encore dans vos intentions.
Mathilde, sans répondre, baissait les yeux.
« Soyez donc la fiancée de mon fils, ma seconde enfant. »
Mathilde redressa son front, qu'une flamme embellit, et pendant que Sébastien frémissait de gratitude envers sa mère, elle se mit pieusement à genoux et murmura
« Je vous remercie, madame, je voudrais vous rendre heureuse. »«
On vous aimera aussi, ma fille. Allons, relevez-vous. Votre robe s'abîmerait. Débarrassez-vous de votre manteau. »
L'oncle Alcide aida Mathilde à se mettre à l'aise. Sébastien, sur un signe de sa mère, préparait des verres de muscat. Bientôt, autour de la table, en dégustant le vin du terroir, on décida d'installer Mathilde dans un hôtel de Nézignan l'évêque et de lui décerner devant le monde, afin d'empêcher les médisances, la noblesse d'une situation supérieure dans la société. Le soir même, avant que les boutiquiers n'eussent allumé leurs lampes, Sébastien promena sa fiancée à travers la ville pour lui en montrer le pittoresque. Ça et là, en passant, il saluait à grands coups de gibus, sans s'arrêter, ses amis d'autrefois. Mathilde s'inclinait discrètement, avec une élégance de parisienne. L'apparition de cette créature du Nord, merveilleuse de fraîcheur et de lumière, provoqua, par les moindres ruelles, la jalousie des femmes, troubla les hommes dans leur concupiscence. Après souper, lorsque Sébastien se rendit au café pour jouir de l'envie sournoise de ses amis, il savait déjà, par les bavardages de l'oncle Alcide à l'apéritif, que sa fiancée était la fille unique d'un receveur des finances aujourd'hui décédé, qu'elle vivait, orpheline, chez des parents, à Paris, et qu'une tante l'avait récemment accompagnée jusqu'à Nîmes. Sébastien n'eut donc pas à entreprendre l'éloge de sa famille nouvelle. À une tablée de curieux qui augmentait à mesure, il exposa ses projets. « Ma femme ne restera pas inactive comme tant de damotes de notre Languedoc. Nous organiserons sur le boulevard, avec un luxe qu'on n'a jamais vu, un commerce de vin. Vous participerez tous de notre prospérité puisque nous vendrons vos récoltes. »
Diable ! Applaudirent en chœur les rétrogrades de Nézignan l'évêque. Tu as une idée de génie, Sébastien.
Les uns lui proposèrent leur vin, qui risquait, au fond des caves, de tourner au vinaigre. D'autres, dans le feu de l'enthousiasme, lui offrirent des capitaux.
Nous verrons ça, répondit Sébastien. En attendant, j'obtiendrai de mes amis intimes, qui sont au pouvoir, dans le Conseil d'État ou dans le ministère, toutes les faveurs que nous voudrons.
Évidemment. Et puis, tu sais, ta fiancée a du chic. Tu ne t'embêteras pas. »
Deux notables, très maussades d'habitude, le prièrent de conduire sa fiancée au café le lendemain pour la distraire. Il promit d'y réfléchir et, fier, serrant la main des camarades qui, de partout, s'avançaient, il sortit la canne sous le bras. Mathilde l'attendait au plan des sauvages. Pour patienter, elle avait joué aux cartes d'abord avec l'oncle Alcide pendant que Mère Adèle, au-dessus d'eux, se couchait. Mais l'oncle l'avait amusée de ses histoires et de ses fadaises. Soit inconsciente perversité, soit curiosité puérile des audaces du bon apôtre, elle avait cédé progressivement à la douceur suppliante de ses bras. Ils n'entendirent point, à leur insouciance, la porte s'ouvrir. Sébastien, en fredonnant une chanson, se présenta. Stupeur ! Il ne put d'un moment proférer un mot ni faire un pas. L'oncle Alcide, entouré d'un bras robuste à la taille de Mathilde, qui, commodément assise sur ses genoux, caressait son menton barbu. Tous deux, frappés d'une égale surprise, ne bougeaient plus. Pourtant, Alcide parla le premier, sur un ton d'innocence. « Eh bien, Sébastien, resteras-tu planté là, comme une borne ? Et toi, est-ce que tu te moques de ton neveu ?»« Non, répliqua Mathilde, on t'attendait. » Dans une drôle de position. Sébastien avançait, la rage au cœur, brandissant sa canne au-dessus de l'oncle, qui, d'instinct, avait baissé la tête. Mais Mathilde empoigna d'un bond son promis sous les aisselles et, le grisant du parfum de son haleine, le gourmanda. « Tu es jaloux, c'est de la stupidité. Ton oncle m'amusait avec ses histoires d'amourette auprès des demoiselles qui le voulaient pour son argent. Il me faisait sauter sur ses genoux. » « C'est ma nièce, pardi. On se familiarise. »« Tu te familiarises trop tôt, mon oncle. Que penserait de nous, Mathilde, si elle constatait dans cette maison des meurtres libres? Ma mère ne se doute pas de tes imprudences. De moi, rien ne l'étonne. » Mathilde, agacée par de telles querelles si vaines, proposa de partir pour l'hôtel. Sébastien obéit. À l'hôtel, le garçon se plaignit qu'on l'obligea de se coucher si tard. Il était 10 heures. Le lendemain, Sébastien conduisit sa fiancée à travers la plaine, de l'autre côté de l'Hérault, à sa propriété. Les travailleurs, en train de tailler la vigne, plaisantèrent, avec leur verve de bon vivant, ce bout d'homme d'avoir choisi pour épouse une femme aussi grande et aussi belle. Sûrement, elle les puiserait dans son corps d'amoureux, ainsi que dans sa fortune trop mince. Mathilde ne comprenait rien à leur langage patois. Mais l'indiscrétion de leurs regards et de leurs gestes lui déplut. Elle s'éloigna vite, avec dégoût. Sébastien eut beau lui expliquer que, sous leur rudesse de primitif, battait un cœur charitable, elle n'admit pas avec indulgence les rires sensuels des pauvres d'une race si contraire à la sienne. Sébastien, en lui montrant sa plaine au soleil, avait voulu l'imprégner des sentiments d'honneur et de travail que dégageait la vieille terre du Languedoc. Elle ne subit que par force, en geignant, ses discours prétentieux de fils de vigneron. Tandis qu'il évoquait ses morts si humbles, son père qui avait tant travaillé pour lui, une tendresse le pénétrait au fond de l'être. Et serrant contre son cœur la femme qu'il adorait, il pressentit une seconde que, plus tard, de même qu'elle lui échappait maintenant par l'esprit, elle lui échapperait peut-être tout entière, de corps et d'âme, après avoir détruit ses rêves, sa fortune et même son honneur. Mais à la ville, il aurait eu honte de ne point répandre de sa personne l'orgueil et la joie. S'excitant à paraître heureux, il crut encore, toujours, à travers les rues de Nézignan-l'Évêque, au miracle de son mariage. Le soir, ils repartirent pour Paris. Quels embrassements à la maison du Plan des Sauvages ! Mère Adèle était conquise, à son tour, par les grâces de Mathilde. « Oh, mon fils ! Gémit-elle, c'est fini pour moi de te voir ! Allons donc, tu viendras à Paris nous marier. » Non ! Moi, quitter ma maison, ma rue, jamais. Je prierai pour vous deux. Au revoir. » Se cachant les yeux entre les mains, elle étouffait ses sanglots afin de ne pas décourager les enfants. L'oncle, qui, par ambition de se montrer robuste et dégourdi, portait leurs valises, les accompagna jusqu'à la gare. Lui aussi, avec transport, les embrassa, surtout Mathilde qui riait. Pour se consoler, il leur dit: « Mes enfants, vous avez tiré un bon numéro. Vous êtes jeunes et vous vous aimez. Moi, si votre mère ne consent pas à quitter Nézignan-l'Évêque, je viendrai vous rejoindre à Paris. Au revoir. Au revoir. » Il s'en retourna, tout couvert de larmes, titubant sur la route noire où la municipalité doit, depuis 50 ans, planter des becs de gaz.